Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, Passage à Niveau avec vous ce dimanche 22 décembre. Et voilà le menu. On va commencer par parler de la situation au Mozambique, au nord du Mozambique. Ça, après le passage du cyclone Chido, le cyclone qui a détruit une bonne partie de l'île de Mayotte. Il faut pas l'oublier non plus. On parlera également RATP. Qu'est-ce qui se passe au point de vue des bus? Ouverture à la concurrence, sur privatisation tout simplement des bus de la RATP à Paris et à la région parisienne. Au point d'interrogation, et on parlera avec un délégué central CGT à la RATP. La situation de l'enseignement du portugais à l'étranger, qu'est-ce qu'est l'avenir, qu'est-ce qui se passe, les accords franco-portugais, tout ça, ce sera le thème qui va finir cette première heure d'émission. Après, on va aller au cinéma. Le film Bonzo de la réalisatrice Marguerite Cardoz, eh ben, il va être dans les écrans français le 25 décembre. C'est Noël, mais ça ne se fait rien, ça concerne le cinéma. Après, on parlera de livres, bref, histoire du Portugal, l'ère contemporaine, chez Bertrand Editore, et les mémoires portugaises de Patrick Gautra, ancien ambassadeur de France au Portugal, aux éditions Temporis. Mais avant tout, Madame Justine de Musique Piquemal, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, merci d'être en direct avec nous. Alors, vous êtes directrice régionale en charge du Mozambique chez Solidarité Internationale. Voilà, le cyclone Chido, il est passé par Mayotte, comme j'ai dit ça tout à l'heure. Mais alors, le Mozambique, ça y est, il est passé aussi. En principe, bon, il a continué son chemin, si je peux utiliser cette expression-là. Mais le Mozambique n'avait pas besoin de souffrir avec ce cyclone. La situation était déjà assez difficile au nord du pays.
Exactement. Bonjour à tous. Solidarité Internationale, on travaille sur le Cabo Delgado, donc province qui se trouve, la région qui se trouve au nord du Mozambique. Et effectivement, généralement, les cyclones, hein, parce que le Mozambique rencontre des cyclones chaque année, passe plus au sud que le Cabo Delgado, région qui est déjà touchée par des conflits avec des rebelles sur la zone et une problématique en plus politique en ce moment.
Alors justement, il y a le travail, bon, parce qu'on a déjà fait plusieurs interviews justement par rapport à votre travail dans la région de Cap Delgado, mais parlons de la situation avec ce cyclone Chido. Officiellement, on sait des chiffres officiels, et jusqu'au 18 décembre, il y a eu au moins 70 morts et 600 personnes qui ont été blessées, sans oublier des gens qui se retrouvent sans abri, et selon les Nations Unies, ce serait près de 200 000.
Exactement. Alors, c'est 200 000, c'est plus de 217 000 personnes dans le Cabo Delgado qui se retrouvent aujourd'hui sans maison et sans abri. Il faut aussi compter la province de Nampula et de Niassa. Donc, c'est les deux provinces qui ont été traversées par Chido. Et au total, on est sur 330 000 environ personnes, ce qui ressemble à 65 000 familles pour avoir une vision un peu concrète. On a 40 000 maisons, grosso modo, qui ont été complètement détruites, donc dans les trois provinces. Donc Chido est arrivé en cyclone tropical de niveau 3 en arrivant sur le Mozambique, donc il était extrêmement fort avec des vents de plus de 220 km/h. Et on se retrouve avec plus de 50 centres de santé qui aujourd'hui ne sont plus du tout fonctionnels sur Cabo Delgado, Niassa et Nampula. Des systèmes d'eau potable ont été complètement détruits et du coup on a aujourd'hui une grosse problématique de tout ce qui touche aux réseaux d'eau et aux pompes à eau qui ont été soit détruites, soit des réseaux d'eau qui se sont complètement envolés. On a des photos, on a des citernes de plus de 600 litres qui étaient pleines, qui se sont complètement envolées en arrachant avec elles tous les réseaux d'eau.
Alors, on savait qu'il y avait déjà des problèmes énormes, notamment ça concerne l'eau potable. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez plein de travail à faire concrètement sur le terrain. Qu'est-ce que vous pouvez faire actuellement?
Alors aujourd'hui, actuellement, donc moi j'ai toutes mes équipes qui sont reconcentrées malheureusement sur Chido. Alors je dis malheureusement puisque, comme vous le savez, le Cabo Delgado connaît des déplacements massifs de population régulièrement à cause des rebelles sur la zone. Donc aujourd'hui, les équipes se sont concentrées sur la réponse Chido. Alors, il faut comprendre visuellement à quoi ça correspond. En fait, quand vous avez un ouragan qui arrive comme ça et qui laisse des millions de litres d'eau insalubre qui stagne, donc on a on a des problématiques de moustiques qui viennent déjà d'arriver, porteurs de dengue et de de malaria. Donc l'urgence première, c'est l'assainissement des zones infestées. Ensuite, c'est la mise en place de distribution en urgence absolue de tentes en plastique, de ce qu'on appelle des shelters dans notre langage humanitaire, pour que les gens aient des maisons, puisqu'ils n'ont plus de maisons. Donc la solidarité internationale avec Action contre la faim, on fait des distributions massives de ce qu'on appelle des kits de première urgence pour avoir donc des bâches, des cordes, des seaux, du chlore pour purifier l'eau dans l'urgence absolue. Et dans un deuxième temps qui va arriver très très rapidement, il va falloir qu'on répare les réseaux d'eau et qu'on répare les centres de santé.
Alors, vous avez parlé justement des problèmes, parce qu'il y a des violences, hein. Il y a des violences justement au nord du Mozambique, même bon, des attaques terroristes, etc., etc. Situation est difficile. Alors, comment est-ce que Solidarité internationale elle arrive à travailler sur le terrain, parce que vous avez déjà des équipes avec des Mozambicains, donc il y a d'autres personnes qui partent de France et d'ailleurs. Et comment vous pouvez vous organiser, parce que bon, ça suppose du personnel, ça suppose aussi de l'argent, parce que malheureusement, ça coûte cher, tout ça.
Alors, donc exactement. Et donc, une ONG internationale comme Solidarité internationale, on a des équipes mozambicaines et des équipes expatriées sur les zones du Cabo Delgado. On travaille donc sur Mocimboa de Praia, qui est donc sur la zone côtière. On travaille sur Macomia, qui est aussi sur la zone côtière. Et on travaille sur Mueda, qui est plus dans les terres. Et notre coordination, donc nos équipes centrales sont basées à Pemba, donc la capitale du Cabo Delgado. Mmh. Comment on travaille? Ben du coup, on évalue chaque matin si on peut envoyer le personnel sur les routes pour envoyer les équipes de réparation ou les équipes de distribution dans les villages, hein, où sont les personnes qui soit se déplacent, soit reviennent. Les pillages sont assez massifs en ce moment sur le Cabo Delgado. On a des groupes rebelles qui sont extrêmement violents. Comme vous disiez, des terroristes qui attaquent impunément pour l'instant sur la zone du Nord. Et en termes financiers, oui, on est soutenu par l'Union européenne, par les Américains, par les Français aussi beaucoup sur nos interventions du Cabo Delgado. Mmh.
Alors, parce que je savais que vous travaillez pas mal en collaboration avec l'UNICEF, et pas seulement, par exemple, ça concerne encore Chido et au nord du Mozambique, il y a au moins 150 écoles qui ont été complètement détruites, donc plus de 16 000 élèves sans école, sans rien du tout, et ça, je pense que vous avez un travail aussi envers les plus jeunes.
Alors, Solidarité internationale, son mandat, on travaille pas dans les écoles. Nos collègues d'autres ONG travaillent. Vous savez, on partage un peu les mandats pour pas tous faire la même chose et pour pouvoir répondre au mieux. Mais effectivement, nos collègues travaillent aussi sur la réparation des écoles et la mise en œuvre de professeurs dans le Cabo Delgado. Mais là, le problème du Cabo, c'est que aussi en termes infrastructure, c'est compliqué. Hein. On se retrouve à 2h30 de vol de Maputo, donc de la capitale. Il y a peu de gens qui peuvent venir travailler dans le Cabo Delgado. Un, parce que c'est dangereux. Et deux, parce qu'on se retrouve dans une zone un petit peu perdue dans l'infrastructure générale du pays.
Alors, sans rentrer dans des considérations politiques, hein, que soit bien entendu, Madame Justine Musique qui pique mal. Alors, le Mozambique est en train de vivre une situation difficile depuis le 21 octobre. Est-ce que vous n'avez pas de difficulté à continuer à développer votre travail et aider la population dans un contexte politique pas très évident, moi, pour vous?
Ah, exactement. Mais ça, c'est en ce moment, donc depuis le 21 octobre, donc il y a des manifestations massives qui ont commencé par Maputo, puis qui sont montées sur Nampula. Et ensuite, ils sont allés à Pemba. Donc, comme je vous disais, c'est un peu le cœur de la réponse humanitaire est basée à Pemba pour le Cabo Delgado. Donc, les manifestations massives qu'il y a eu depuis quelques mois ont ralenti quelques activités. Après, nous avons des bases, ce qu'on appelle des bases arrières, donc à Mocimboa avec nos équipes et sur Mueda, qui, elles, ne sont pas touchées par ces manifestations. Lundi, il y a une annonce à une très grosse manifestation avec les résultats présidentielle. Donc forcément, ça ralentit un peu les activités, mais tout est question d'anticipation, vous imaginez bien. Donc on a envoyé nos équipes pour faire la réponse à Chido déjà sur le terrain, qu'elle ne soit pas impactée par ce qui va se passer sur Pemba. L'impact direct qu'on a, nous, humanitaires internationaux, c'est déjà pour notre personnel mozambicain, puisque c'est les premiers touchés par ces manifestations, avec toutes les fermetures et les violences qui sont dues aux manifestations. Et le deuxième point, c'est aussi l'accès aux visas internationaux pour le travail. Comme vous pouvez imaginer, quand le pays est bloqué par des manifestations, l'accès au visa est beaucoup plus compliqué pour les humanitaires.
Ouais, c'est pas évident, d'autant plus bon, dans une autre province de tête. Là, on parle d'environ 240 000 familles qui sont voilà, et ça à cause de El Niño. Bon, c'est vrai que le Mozambique, c'est un pays vraiment sacrifié, c'est incroyable. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider, entre guillemets, le travail de solidarité internationale?
Alors déjà, parler du Mozambique, c'est bien. Merci beaucoup hein, de cette opportunité de parler du Mozambique, sans enlever en rien à ce qui s'est passé à Mayotte. Hein, mais c'est vrai que les Mozambicains ont subi de plein fouet Chido et que c'est très compliqué. On travaille avec les autorités locales pour essayer de trouver des solutions aussi à cette réponse et avec la coordination de tous nos collègues. Mais c'est vrai que le soutien aussi financier, parce que du coup, la réponse est coûte très cher hein, sur le Mozambique, vu qu'il y a peu d'ONG internationales qui répondent. Donc le soutien aussi financier est très important.
Donc peut-être une adresse mail, je pense que le mieux c'est passer par les réseaux, mais comment le faire directement sur vous?
Du coup, si Solidarité Internationale, on pouvait faire un don en confiance, donc sur solidaritéinternationale.org directement, et vous saurez directement que ce sera une réponse sur le Mozambique.
Voilà, et comme dire l'autre, on est à J-10, donc il faut pas oublier que, par exemple, si on donne 100 euros, en réalité, on donne que 25, parce que le reste, c'est déduit des impôts.
Exactement.
Je suis désolé de parler comme ça, mais enfin, je pense que ça vaut la peine de rappeler ça. Et ça concerne aussi les entreprises. Hein. Ça concerne pas uniquement les gens individuels.
Exactement. Ça ne concerne pas que les gens. Ça concerne exactement les entreprises aussi qui sont déduites fiscalement de tout don donné à Solidarité Internationale.
Voilà. Merci. Ça fait des années qu'on est avec Mozambique et on va continuer. Merci, Justine Musique Piquemal. Je rappelle, vous êtes directrice régionale en charge du Mozambique chez Solidarité Internationale. Merci et bon travail pour vous.
Merci beaucoup et je vous souhaite de bonnes fêtes.
Merci beaucoup. Bon, on va changer complètement de sujet, d'une catastrophe. On va revenir dans notre petite région parisienne. Bon, il n'y a pas beaucoup de catastrophes, mais enfin. Ça, un exemple. Pendant une semaine, entre le lundi 9 et le vendredi 13 décembre, donc ce mois-ci, 1248 bus fantômes. Mais des plus, sont-ils partis? Sont-ils disparus? Bon, on lance un SOS, on cherche des bus fantômes où ils sont passés. Bon, plus sérieusement, Nuno Martins, bonjour.
Bonjour Arthur, merci pour l'invitation.
Merci, donc je rappelle, vous êtes délégué central CGT à la RATP. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que, bon, entre-temps, on a eu la Covid, on a eu les Jeux Olympiques, donc les échéances ont été retardées, ont reportées. Alors, au niveau de la RATP, c'est ouverture à la concurrence, c'est la privatisation. Qu'est-ce que la CGT pense par rapport à ce qu'est un transfert des décisions prises par l'Île-de-France, la région Île-de-France et par Madame Pécresse?
Oui, alors avant de répondre à votre question, Arthur, je voulais faire un petit message en préambule pour donner en fait mon total soutien à Ludovic qui a donné fin à ses jours et qui faisait partie des agents qui sont en grève sur le dépôt de Saint-Ouen qui dépend du lot de Sergi Pontoise. Donc voilà, je soutiens, j'envoie plein d'ondes positives à sa famille et à ses collègues qui sont encore aujourd'hui encore en grève. Et donc sur l'ouverture à la concurrence, c'est un peu la situation compliquée qu'on vit. Vous l'avez bien dit, il y a un manque énorme de bus, de régularité de bus justement, parce qu'il y a un manque de personnel. Alors on a réussi un peu à combler les choses avec l'appel d'air des Jeux Olympiques. Il fallait que la France et l'Île-de-France sortent vers le haut. Donc il y a eu un grand volume d'embauches. Mais encore aujourd'hui, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Pour vous dire, en début d'année, au niveau de la RATP, il manquait 1500 conducteurs de bus. Aujourd'hui, il en manque encore 500. Mais il y a beaucoup, beaucoup de démissions, justement, dues à cette ouverture à la concurrence, donc qui arrive à grands pas. Hein. Moi, je suis de Noisy-le-Grand et les premiers lots ont été attribués là au mois de novembre. Et je vois déjà des disparités, parce que les agents de la RATP et pas que sont pressurisés pour faire plus avec moins. Et par exemple, encore hier, le 320, donc qui est une ligne régulière qui passe chez moi, qui passe habituellement tous les 15 minutes, ne passait qu'au bout de 47. Donc il y a vraiment une pressurisation. Vous parliez de bus fantôme, c'est plutôt en fait du manque de personnel. Mmh. Qui fait qu'il y a ce manque quotidien de bus, quoi. Mmh. C'est ça qui est très, très, très dommageable. Madame Pécresse a décidé d'appliquer la loi à sa façon. Alors, effectivement, il y a la loi Home. Il me semble qu'on en avait parlé la dernière fois que j'étais venu sur votre émission. Donc, qui s'applique, qui fait que progressivement, les 12 lots le réseau historique de la RATP est séparé en 12 lots et que progressivement ces lots vont partir à la concurrence. Et sincèrement, on le voit déjà, ça marche pas. S'il n'y a pas d'attrait sur ces métiers, hein, c'est des services des fois en deux fois au niveau des machinistes, des services où ils commencent tôt, entre 3h30 et 4h, il faut être au dépôt pour prendre le bus et aller sur la ligne. Vous le disiez tout à l'heure, le Covid a fait aussi quelque chose de, alors moi je trouve de bien, mais le rapport au travail a changé. Et on voit qu'aujourd'hui, voilà, on a du mal, même dans une grande entreprise comme la RATP, à embaucher et à donner de l'attrait. Et après, il y a des choix politiques qui, à mon avis, sont pas les bons. Hein. Le choix politique de Madame Pécresse de ouvrir la concurrence, le réseau bus, et ensuite le tramway, parce que, en fait, progressivement, jusqu'à 2040, il va y avoir l'ouverture du tramway, du métro et du RER. On va pas y gagner. On le voit, je dirais mondialement, que ces choix-là ont jamais été les bons. Mmh. En Angleterre, ils reviennent en arrière. Nous, syndicalement, parce que vous me posiez la question, et nous, syndicalement, on combat et on se bat plus pour un pôle public des transports, plutôt plus pour une régie régionale des transports, où on pourrait, comme on l'a fait pour les JO, quand il y a un manque de service quelque part, à venir aider avec du personnel et transvaser. Quand on marche par silo, et c'est un peu l'objectif là de fonctionnement par lot, un lot fonctionne sur un périmètre et va pas aider l'autre périmètre. Et s'il y a un manque de personnel ou de véhicules, le principal, je dirais, entre guillemets, dans la mouise, c'est l'usager, c'est le voyageur.
Mais un autre motif, chaque lot, après, il est attribué à des entreprises. Alors, si je regarde le nom des entreprises, on dirait que c'est des filiales, entre guillemets. Bien entendu, ils sont devenus totalement des entreprises privées, de droit privé, c'est plus de droit public. Mais curieusement, à l'origine, on trouve qui ? Les RATP. La SNCF et compagnie, qu'est-ce qui se passe ? Bon, donc, moi, ça me pose un problème, je ne comprends pas.
En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les quatre grands groupes de transport aujourd'hui en France sont des entreprises d'État. Vous l'avez dit, Transdev, c'est le dépôt et consignation, la caisse de dépôt et consignation, Keolis, c'est la SNCF, et RATP a une multitude de filiales, RATP Dev, RATP Cap, et effectivement, toutes ces boîtes sont des entreprises publiques et on voit la création en fait, de ces filiales font que l'objectif premier, c'est de faire à moindre coût. Alors très certainement, le statut des agents de la RATP et de la SNCF, ça a un coût, mais ça a aussi c'est des droits et des avantages par rapport à des contraintes. Aujourd'hui, dans ces filiales, il n'y a plus du tout ces avantages-là. Il n'y a que les contraintes. Souvent, les salaires sont moins 10 ans et les gens, ils restent pas. Ils restent pas, ils préfèrent faire des fois le même travail parce que ça leur plaît, mais en province. Parce qu'en Ile-de-France, il y a la contrainte des bouchons, la contrainte de la voiture. C'est vraiment pas évident pour un machiniste de faire son travail au quotidien, sans compter les insultes, les voyageurs, ce qu'on a vu là encore dernièrement là sur des réseaux plus petits comme à Nantes et à Toulouse.
Alors une question annexe, pardon. Oui. La RATP a un PDG, Monsieur Jean Castec. À quoi il sert exactement?
Bah, il sert à coordonner, il a servi aussi à, j'allais dire, à coucouner les agents, parce qu'on a eu deux PDG avant qui ont fait qu'une chose, c'est serrer la ceinture, le caractère humain de l'entreprise et de ses salariés était totalement dévoué, enfin désavoué. On a eu Madame Borne qui a été première ministre, enfin je pense que tout le monde connaît, et Madame Guillouard. Et Jean Castex était là pour faire un peu des câlins à tout le monde, pour que les jeux se passent bien. Là, on va voir, on n'a pas forcément bien compris sa feuille de route, parce qu'il ne parle plus d'entreprise publique, il parle du groupe RATP. Donc, moi, j'attends de voir. En tout cas, il a essayé d'arrondir un peu les angles, de faire que il n'y ait pas de grande grève, de grande mobilisation pendant les Jeux Olympiques. Et on a vécu une séquence où il fallait impérativement que la RATP et Paris sortent vers le haut. Donc il était là pour ça. Donc on va voir après le PDG de grandes entreprises comme la RATP dépend du gouvernement. Et on sait qu'en ce moment, c'est très compliqué.
Alors, quand on parle des transports, ça fait partie des services de base, des services publics. Dans le temps, on était des usagers. Bon, à la SNCF, on est devenu complètement des clients, tout simplement, mais des clients qu'on parle le droit de râler. Bon, c'est une autre affaire. Alors, justement, parce que quand on voit les services publics, est-ce que la situation à la RATP, à la SNCF, etc., c'est pas la suite logique de tout ce qui est en train de se passer? Par ailleurs, je parle de l'eau, je parle de l'électricité, je parle même de la santé, etc., etc. Bon, c'est parfaitement logique, hein, c'est quand ça se passait au niveau de la RATP.
Totalement, enfin, j'ai vraiment la même vision. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Alors, c'est pas de moi, mais c'est totalement d'actualité. 87% des voyages qui se font aujourd'hui dans le transport se font pour aller au travail. Donc, on voit vraiment l'utilité de ce service public. La santé, c'est totalement pareil. On le voit aujourd'hui, encore moi il y a peu, je suis allé aux urgences, on voit le désengagement de l'État sur le service public et on voit les conséquences désastreuses, le mal-être aussi au travail du coup de personnes qui aiment leur boulot, hein, les infirmières, les médecins. Et oui, si on parle après de l'eau, à mon avis, on pourrait parler des heures. Le service public, c'est vraiment le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Et on le voit au quotidien. Moi, je partage totalement votre point de vue, Arthur.
Enfin, bon, une chose est certaine, hein, c'est qu'à partir du 1er janvier, par exemple, je parle du Navigo, hein, donc ça va passer 88,80 €. Alors, quand on voit depuis que Madame Pécresse a été élue, la carte Navigo a augmenté de 40 à 50 € par an.
Oui, c'est un peu moins. Enfin, quand la carte à prix unique s'est mise en place de mémoire, c'était 70 €. Et c'est vrai que progressivement, on prend chaque année des euros en plus sans avoir, en tant qu'usager, le service qui va bien. Parce qu'on n'a pas. En fait, les investissements, il y en a sur le réseau francilien, mais il n'est pas à la hauteur. Je vois par exemple le prolongement de la ligne 11 devait aller jusqu'à Noisy-le-Grand et aujourd'hui il va uniquement jusqu'à Rosny-Bois-Perrier. Il y a des extensions comme ça de lignes qui devraient favoriser le quotidien des travailleurs qui aujourd'hui ne se fait pas. Par contre, on met des moyens par exemple sur le Charles de Gaulle Express où on veut raccorder justement les deux aéroports pour les populations qui ont les moyens de pouvoir passer de Orly à Charles de Gaulle ou de Charles de Gaulle à Orly. Alors, on sent que les moyens financiers, ils sont pas. Faut juste savoir que quand même le réseau francilien, c'est 12 milliards d'euros au niveau de la gestion. La moitié, c'est la RATP. Et on n'y voit pas. La hausse, elle, par contre, on la sent bien. On est maintenant, à 88,80 €. Et on nous annonce déjà que dans les 4-5 ans à venir, on va atteindre rapidement les 100 € de passe Navico par mois.
Non, enfin,
il commence à faire une très très grosse somme.
Ouais. Les prix augmentent, mais le service rendu, il est de moins en moins. Surtout, bon, quelqu'un qui habite en banlieue, moi je sais que le premier train pour arriver ici, c'est à 4h48, un truc comme ça. Hein. Mais après, une fois arrivé à Paris, bon, le problème c'est que les lignes métro qu'on commence plus tard, je passe une petite demi-heure à attendre un métro. Bon, moi, voilà. Et prenez les transports en commun. Enfin, Nonne Martin, je vous remercie. Bien entendu, on va revenir là-dessus l'année prochaine, puisque bon, cette année 2024 est en train de s'achever, et faire un petit peu le point de la situation, parce que savoir, je passe l'expression, à quelle sauce on va être mangé au niveau des transports.
D'accord, bah je viendrai avec plaisir. J'essaierai de venir avec des copains machinistes et peut-être même des copains du RER pour qu'ils vous donnent un peu le ressenti qu'ils ont au quotidien. Mmh. C'est, à mon avis, intéressant que l'ensemble des usagers mesurent les pénibilités, les contraintes sur la vie familiale qu'ont ces agents-là.
Oui, tout à fait. Parce
ce ne sont pas que des privilégiés.
Non, et pour faire démarrer un train au RER à 4h45, bon, il faut se lever à quelle heure? Bon, bonjour, ma foi. Souvent,
voilà,
on oublie ça.
3h du matin.
Voilà.
Non,
Martin, on l'oublie. Voilà, merci bien et à l'année prochaine, alors.
À l'année prochaine et bonne fête à tous.
Merci.
Merci, Arthur.
Voltamos ao Direto Passagem Naval neste domingo, dia 22 de dezembro, emissão, lembro, com a difusão, na noite da terça para quarta-feira, a partir das 10 horas, e o podcast. Ora, pois bem, o Grupo Parlamentar do PS interpelou o Governo, isto data do dia 15 de novembro, e, pois bem, entregou uma pergunta, um requerimento, aliás, uma pergunta ao Governo, assim é que é. Assunto sobre a situação da crise dos leitorados e cursos portugueses ensinados nas universidades no estrangeiro. Pois bem, os deputados do PS, né, turma de deputados, interpelaram o Governo e a resposta veio no dia 20 de dezembro. Governo revela e aumenta verbas para melhorar leitorados no estrangeiro e o Governo, ao que parece, isto cita a agência Lusa. O Governo subscreve as preocupações do PS. Paulo Pisco, boa tarde.
Muito boa tarde.
Ora, lembro, deputado do PS pelo Círculo da Europa. Ora, o Governo subscreveu as vossas preocupações, foi?
Exatamente. Nós temos acompanhado a crise dos leitorados, temos falado com alguns dos leitores, temos acompanhado a situação, conhecemos bem os problemas e, na sequência deste conjunto de interpelações que tenho feito junto dos de alguns dos leitores e de acompanhar a situação do ensino português em França em todos os seus graus, e com a preocupação que nós temos com a internacionalização do ensino e da língua e da cultura portuguesa, porque não faz parte do programa do governo, portanto foi completamente suprimido. Decidi fazer essa pergunta ao governo, por um lado procurando saber qual é a perspectiva do governo para melhorar a situação dos leitorados, uma vez que há um conjunto de reivindicações que até foi presente numa carta, e daí também termos pedido à Presidente do Instituto Camões para dar explicações na Assembleia da República. E a verdade é que há uma constatação a fazer sobre a crise nos leitorados e há a resposta que o Governo dá. A resposta que o Governo dá em que partilha das nossas preocupações, mas aquilo que refere é que vão abrir a alguns outros leitorados, em alguns pontos estratégicos do mundo, mas relativamente à situação, às reivindicações concretas que os leitores fazem, não há rigorosamente nenhuma resposta. Eu presumo que aquilo que o Governo quer dizer sobre o aumento das verbas para a situação dos leitorados tem a ver com a intenção de abrir novos leitorados, não para resolver os problemas. Aliás, quando interroguei a Presidente do Instituto Camões sobre esta situação, ela disse que já tinha reportado à tutela, portanto ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, a situação, mas que não tinha até então obtido uma resposta, o que me faz prever o pior, porque a situação que existe, que tem a ver com a atualização salarial, que tem a ver com a atualização dos abonos, que tem a ver com as orientações, que tem a ver com o acompanhamento, que tem a ver com uma dimensão política que, relacionada com o facto de ser necessário uma intervenção junto também das próprias universidades e dos reitores, para que os professores que são contratados, os leitores, etc., tenham um apoio que necessitam.
Mas, e, portanto... uma referência agora para o Bispo, a coisa concreta, o Governo anunciou, o Ministro dos Negócios anunciou para 2025 que a rede do ensino de português do estrangeiro, o EPE, vai contar com uma verba de 29 milhões de euros e que o orçamento do Instituto Camões para 2025 aumentou de 39 milhões de euros em relação a 2024. Onde é que vai este dinheiro?
Não se percebe porque essa verba que é referida não é de todo concretizada e aqui o que está previsto é a realização de algumas das ações que já tinham vindo a ser implementadas no âmbito do ensino do português no estrangeiro. Portanto, que essa é outra das valorizações que é necessário fazer, porque uma das questões que surgiu numa reunião que tivemos em Paris foi que haverá cerca de 10 mil jovens que pretendem frequentar os cursos integrados de Língua e Cultura Portuguesa e não têm resposta. Mas relativamente a estes aspectos, não houve nenhuma resposta da parte do Governo. Não houve nada de concreto. Há alguns aspectos que estão em curso, como por exemplo quando fala na antecipação dos cursos integrados ou complementares no Luxemburgo. Bom, isso decorre um pouco da prática que tem havido relativamente ao ensino no Luxemburgo. Na Suíça, em que tem, por exemplo, havido uma diminuição do número de alunos relativamente acentuada, não há qualquer referência. Portanto, o Governo, quando dá a resposta, parece algo que é até atraente, parece que alguma coisa vai mudar, mas concretamente não conseguimos vislumbrar no que é que, quer em relação à organização da rede do ensino português no estrangeiro, quer relativamente à situação, que é uma situação dramática de grande desmotivação que existe nos leitores, não conseguimos entender o que é que vai efetivamente mudar.
Enfim, agora outra coisa, e o Paulo Pisco que teve a ocasião de interpelar a Presidente do Instituto Camões, Flaubert Laparibe, isto tem a ver com os acordos entre Portugal e a França, que já datam de 1970. Bom, depois disso, já houve uma certa atualização relativamente a estes acordos, isto diz respeito ao domínio e ensino, língua e cultura. Pois bem, há anos que nós andamos a fazer perguntas a representantes do Governo, que seja do PS, do PSD, deputados e por aí afora, e disse, vai-se ver, por exemplo, a comissão bilateral para se reunir, deveria reunir-se todos os anos, não acontece isso. Que resposta é que teve da Presidente do Camões?
Bom, eu tenho alguma esperança que alguma coisa possa, que possa mudar, porque este esforço que tem vindo a ser feito, quer pelos governos, quer pelos nossos embaixadores em Paris, quer pelos ministros da Educação, tem feito aparentemente mover alguns aspectos relativamente à valorização da língua e da língua e da cultura portuguesa e dos cursos de português em França, muito particularmente. E a prova disso é que o presidente Emmanuel Macron vai visitar Portugal no próximo ano, e um dos aspectos que está na agenda, conforme foi dito pela Presidente do Instituto Camões, é precisamente o acordo de ensino. E que aquilo que disse, que eu espero que vá, de facto, no bom sentido, aquilo que foi dito pela Presidente do Instituto Camões, é que estão a decorrer, neste momento, negociações entre Portugal e a França para que alguns dos aspectos que têm a ver com a valorização dos cursos portugueses e do ensino português em França possam vir a ser contemplados nesse acordo. Concretamente, ela não fez referência a nenhum aspecto, mas na medida em que há estas negociações para a revisão do acordo. Eu espero que as reivindicações, todas as inquietações e preocupações da comunidade portuguesa e também da comunidade educativa portuguesa em França possam ser atendidas. Designadamente, o facto de haver uma certa discriminação ou omissão por parte dos estabelecimentos de ensino que não fazem a devida promoção dos cursos de português, o facto de não haver uma continuidade nos diferentes graus de ensino que leva a que haja uma desmotivação e depois também relativamente a uma necessidade de revisão dos protocolos que existem entre o Estado português e as universidades, as diversas universidades também em França, no que diz respeito aos leitores, de forma que possa haver uma atualização das condições. Portanto, eu espero que aquilo que foi referido sobre as negociações em curso possam ir ao encontro daquilo que são
as
expectativas e as necessidades relativamente aos cursos de português em todos os graus de ensino em França.
Paulo Pisco, alertou igualmente ao interview junto mais concretamente na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, a propósito dos adidos sociais. O que é que se passa? Há a estratégia do governo que está a retirar da Europa um certo número de adidos sociais? O que é que se passa?
Não obtive resposta. Infelizmente eu não obtive resposta e esta é uma questão que me preocupa bastante, porque tem havido uma não renovação dos contratos dos adidos sociais que existem em algumas missões diplomáticas e consulares na Europa. E aparentemente para as colocar fora da Europa, mas a Europa, e sobretudo nós temos o caso de Paris, temos o caso de Berlim, temos o caso também de Londres, que eu não sei o que vai acontecer, mas o ministro também não disse nada, e isso é uma coisa que me preocupa, porque a situação na Europa, em termos sociais e em termos da comunidade portuguesa, e falando concretamente de Paris ou de Londres, ou mesmo a Berlim, não é propriamente a melhor. E depois também porque os adidos sociais têm um papel fundamental de ligação com a nossa comunidade, por exemplo, relativamente aos apoios e à informação no que diz respeito ao movimento associativo, muito particularmente para a obtenção dos apoios e da necessidade de os formulários para os pedidos de apoio serem devidamente preenchidos, e eu não estou, não consigo entender que tenham sido substituídos já em Paris e em Berlim os adidos sociais, e sobretudo numa altura que é tão crucial para a relação com a comunidade e para o acompanhamento da nossa comunidade. E, portanto, eu espero que a Europa não seja preterida em favor do círculo de fora da Europa, que é de onde que é por onde o secretário de Estado das Comunidades é eleito, e é ele que toma esse tipo de decisões. Ele, habitualmente, o secretário de Estado, quando, e já é a terceira vez que o secretário de Estado José Cesário assume essas funções, e de cada vez que o faz, há sempre uma certa tendência para privilegiar o círculo fora da Europa contra o círculo da Europa. E como nós vimos, nas duas vezes anteriores em que José Cesário foi secretário de Estado das Comunidades, aquilo que ele fez foi reduzir de forma significativa a nossa rede consular, e aí a França tem sido sempre muito afetada por esse tipo de
decisões.
Exatamente.
Paulo Pisco, muito obrigado. Resumidamente, resta-nos à volta 2 minutos. Mandou uma mensagem de boas festas às comunidades portuguesas. Resumidamente, que ponto é que pode destacar nesta mensagem de boas festas, votos de paz, isto tendo em conta precisamente a situação na Ucrânia, na Gaza ou em Gaza ou noutros conflitos, relativamente à retórica odiosa contra os estrangeiros em Portugal? São dois temas importantíssimos e há muita coisa para fazer para salvaguardar o ser humano, então.
Nesta altura de Natal, que não é só durante o Natal, durante a passagem do ano, é que nós devemos fazer votos para que alguns dos valores que são fundamentais nos tempos que correm sejam vividos, que sejam afirmados pelos portugueses que estão um pouco por todo o mundo. A paz é absolutamente fundamental, não apenas por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia e não apenas pela situação absolutamente dramática do ponto de vista humanitário, da morte cotidiana, do assassinato cotidiano de pessoas inocentes, de mulheres e de crianças, como ocorre na faixa de Gaza, mas por causa disso e pelo perigo que existe de um alastramento desta situação, a paz hoje, sempre, é absolutamente fundamental. Ela está às portas da Europa e nós não nos podemos aliar. Mas a fraternidade e a solidariedade são aspectos que os portugueses nas nossas comunidades sempre viveram de uma maneira muito forte, muito intensa, e nós temos que olhar para estes valores como valores que devem ser também aplicados na vivência cotidiana.
E precisamente, Paulo Pisco, peço desculpa, aqui o que aconteceu em Bertim Moniz, no centro de Lisboa, dá para refletir em que país é que nós estamos, onde é que nós vamos?
Dá, exatamente, porque aquilo que está a acontecer tem acontecido com uma demonstração musculada das forças de segurança e de algumas medidas do governo que têm sido desastrosas na nossa relação com a imigração, portanto, com os estrangeiros que vivem em Portugal, e isto tanto mais quanto Portugal é um país, como todos nós sabemos, de imigração. Ao longo da nossa história, essa foi sempre a nossa prática, ao longo de séculos, ao longo de gerações. Nós moldámos continentes, nós impusemos a nossa língua, impusemos a nossa cultura, e agora estamos a viver aqui uma situação em que a xenofobia e o racismo, que têm até uma dimensão institucional, estão a alastrar só para dar resposta a uma agenda da extrema-direita que, tal, a exemplo daquilo que acontece noutros países, também em Portugal está a fazer estragos. Porque aquilo que se passou no Bem Formoso é indigno de um país como Portugal, que tem milhões de cidadãos portugueses no mundo, que sempre tivemos uma imigração, que sempre tivemos um passado colonial, que impusemos os nossos valores, as nossas regras e a nossa língua, e agora não estamos a saber acolher as pessoas, estamos a intimidá-las com ações policiais que são de verdadeira humilhação. E isto tudo, mais uma vez repito, porque há um sentimento de xenofobia e de racismo que está a alastrar na sociedade portuguesa e que eu acho que os portugueses têm que mudar também a sua forma de olhar para os estrangeiros. Da mesma maneira que nós sempre quisemos que os portugueses fossem olhados da maneira que eles deveriam ser olhados, de pessoas que procuram de facto uma vida melhor, e nós temos em Portugal condições para proporcionar oportunidades a essas pessoas, e é isso que nós devemos fazer. E quando vêm aquelas ideias de que mas eles são muito diferentes, quer dizer, não são nada diferentes. Os portugueses, quando chegaram a todos os continentes, depararam-se com povos que eram também completamente diferentes. E quando se ouve falar, por exemplo, contra os brasileiros, eu não consigo entender como é que nós, como aqui há pessoas em Portugal que fazem a referência aos cidadãos brasileiros, quando nós chegamos, nós portugueses, chegamos ao Brasil e impusemos a nossa língua, e hoje não temos essa capacidade, essa tolerância para também ter esta solidariedade, esta fraternidade e esta compreensão. Isto não significa, só para dizer uma coisa, isto não significa que não tenha de haver regras. Tem que haver tolerância, tem que haver humanismo e tem que haver bom senso, porque nós estamos a criar um problema onde ele não existe, porque os imigrantes são absolutamente fundamentais para fazer funcionar a economia portuguesa e nós não podemos estar a hostilizá-los desta maneira.
Paulo Pisco, muito obrigado.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Está tudo dito e começamos esta segunda hora. Relembro a emissão com a difusão da noite e terça para quarta-feira a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Pois bem, vamos ao cinema. Vamos a isso e depois voltamos uma pequenina explicação porque vale a pena. Enfim, Banzo, um filme de Margarida Cardoso que vai estrear aqui em França no dia 25 de dezembro. É dia Natal, mas há estreia de filmes também. Banzo.
Estão todas prontas? Trabalhar. A fingir que trabalha.
O mal não se deixa fotografar facilmente. Temos de dar uma ajuda.
Porque choro, porque canto, não posso, nem sei dizer. Canto para não chorar, canto para não morrer. Sou triste, todos o dizem, mas ninguém sabe a razão.
Eu gostava de falar com as pessoas. Não.
Mesmo que nós falássemos, o que ia mudar?
Se as pessoas não querem comer, se querem morrer, eu preciso de saber porquê.
Mandaram-vos diretamente para o céu, doutor.
Eu posso garantir-lhe que aqui não há nenhum serviçal sem contrato assinado.
Sabe o que mais me surpreende? A facilidade com que começamos a agir segundo as leis deste lugar.
Temos uma nova remessa a chegar brevemente.
O meu medo é que isso se transforme na pandemia. Eu exponho em contacto com os outros.
Não há nenhum medicamento, nenhum tratamento.
Os que se atiram ao mar, nunca mais os vemos. Vão para lado nenhum, dizem.
E não quero ficar com as fotografias.
Nunca vá com aquilo. Vai na veto.
Será que eles sabem que vão para lado nenhum?
Banzo, um filme de Margarida Cardoso que estreia aqui em França no dia 25 de dezembro. Ouviram a temática, mas nada melhor precisamente do que... Bom, ouçamos. Fazemos um salto atrás. Em 1907, um médico que decide ir para São Tomé não sabe muito bem aquilo que ele vai encontrar, nem ele próprio sabe. Aliás, o que podemos dizer é que naquelas as personagens todas, desde aquilo que eu chamo o governador, etc, etc, vive-se num ambiente completamente, quer dizer, é incrível, mas talvez começar pelo princípio, Banzo. O que é o Banzo em Portugal? Em português podia dizer uma saudade, mas é uma saudade que mata, não é?
Sim, o Banzo, a origem do nome vem da uma investigação que eu também fiz nos relatórios médicos da altura, e Banzo era uma nostalgia muito profunda, que é uma depressão, que se manifestava nas pessoas que vinham como, primeiro como escravos, depois como contratados, para trabalhar como mão de obra praticamente escrava, mesmo depois dos contratos forçados, e essas pessoas tinham tendência a ficarem a não comer, a entristecerem, e muitas delas a quererem morrer por sua própria vontade, para pensarem que poderiam assim retornar às suas terras ou fugir só da situação em que estavam.
Margarida, um papa assim ao francês?
Oui.
Ah, bah, ok. Não, mas... Est-ce que, comme ça, on élargit, on sort de l'étau noir
portugais?
Les esclaves, on les appelle serviçais. Alors, ce mot en portugais, justement, c'est pour cacher l'histoire d'esclavage. Alors, si je peux rajouter une petite note personnelle, j'ai été, il y a une bonne vingtaine d'années, à Saint-Thomé, et j'ai interviewé des gens très âgés, dont... des gens dans la famille, mais longtemps après, avaient été des esclaves, venaient du Mozambique, justement. Et je peux vous dire que moi et mon collègue, Albert Morne, des RFI, on avait apporté une tablette de chocolat. Et le monsieur, déjà assez âgé, quand il a vu le fruit de sa sueur, de son travail, en quoi c'était transformé après en Europe et par ailleurs, c'est incroyable, parce que là, on voyait, effectivement, alors les Portugais disaient, non, ils travaillent, c'est très bien. Mais c'est, comment dire, ça raconte assez bien qu'est-ce que ça a été le colonialisme portugais, votre film.
Oui, d'ailleurs, j'ai eu l'idée de ce film en travaillant sur un autre film qui s'appelle, c'est un film un peu hybride entre le documentaire et la fiction. Et j'ai réalisé ce film qui s'appelle Understory, qui c'est l'histoire de l'arbre du cacao avec toutes les implications historiques. Et c'est là que j'étais à Saint-Thomé tout ce temps et que je me suis rendu compte de cette situation qui encore aujourd'hui est très vivant et très présent. Les ruines des plantations, toutes les histoires dans la mémoire collective et individuelle des gens qui ont encore des liens de parenté avec les gens qui étaient des esclaves, des serviçais, contratats. Mm-hmm. Et dans ce film aussi, d'Understory, j'ai vu cette distance entre le monde occidental et la production du cacao, du chocolat et le produit original en soi. Et c'est ça aussi qui m'a un peu poussé à parler de ça, parce que je crois que Banzoum, qui se passe en 1907, du siècle avant, c'est aussi une histoire très actuelle, parce que ce système qu'il y a encore aujourd'hui de la main-d'œuvre et des gens qui travaillent et qui vendent ces petites choses pour que soit après transformé dans le monde occidental, ça continue à être le même système.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, bon, j'avance pas de nom, hein, je suis pas là pour dénoncer qui que ce soit, mais enfin, toujours est-il que les gens, ils sont payés, très mal payés, dans des conditions vraiment infâmes, et après, le chocolat Saint-Thomé, en plus, il est très, très, très bien renommé, et s'est vendu une petite fortune. Une dernière question, Marguerite Cardoz, finalement, dans le film, la seule personne qui est libre, et qui peut faire tout ce qu'elle veut, c'est le photographe, c'est le seul qui peut partir sans demander à qui que ce soit de quitter Saint-Thomé.
Oui, pour moi c'était important d'avoir un genre d'un film à deux personnages, hein, que c'est le médecin, qui on peut dire que c'est le personnage central, parce qu'il n'est pas vraiment un personnage principal, parce qu'il ne change pas, il est comme quelqu'un qui voit. Et après, il a ce personnage que pour moi, c'est le personnage en fait principal, dans ce sens-là, que c'est le photographe qui est un passage pour cette île, que c'est un homme noir, mais qui est libre, et qui a choisi de faire sa vie en se déplaçant, donc il n'y a pas de lieu, il est dans son île de passage, et c'est lui qui a le pouvoir de faire la photographie et d'utiliser la photographie comme une preuve. À l'époque, c'était très important, et c'est ça qu'il essaie de faire dans le film, et c'est cet homme, ce nouveau homme libre, avec l'agence sur soi, qui fait les photos et qui peut partir pour témoigner quelque chose dans le monde extérieur qui on croit être le monde occidental.
Effectivement, on va dire qu'il a fallu attendre 1974. Saint-Thomé est devenu indépendant en 1975, mais enfin, donc c'est très important quand on dit en Portugal, ah, dans le temps c'était mieux, etc., etc. Et les gens que réfléchissent, parce que les Portugais ont utilisé l'esclavage. Margarida Cardoso, je vous remercie.
Merci.
Margarida Cardoso, com efeito o filme Banzo Banzo, estreia aqui em França na quarta-feira, dia 25 de dezembro. É Natal, mas há filmes que são estreados. Bom, deixamos 1907, vamos recuar um bocadinho mais ainda, porque não? Isto a propósito do livro Breve História de Portugal à Era Contemporânea, 1807-2020, de Raquel Varela e de Roberto Della Santa Bertrand, editora. Bom, e agora vamos fazer uma viagem, uma longa viagem, concretamente entre 1807 e 2020, a propósito do livro Breve História de Portugal, Raquel Varela e Roberto Della Santa. Raquel Varela, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito obrigada, boa tarde a todos.
Raquel Varela, lembro, historiadora, professora universitária. Vamos do período das invasões napoleónicas até o início da epidemia da Covid, que é o chamado Covid. Ora, como diria o outro, e pessoas de bem, é preciso conhecer a história para ser parte dela como sujeitos, não é?
Sem dúvida, muito obrigada, antes de mais nada, pelo convite. Nós procurámos fazer, nestes 50 anos do 25 de Abril, que eu estudei na História do Povo na Revolução Portuguesa, que está felizmente publicada em França, Un Peuple en Révolution, pelas edições Agone, nós agora procurámos fazer um livro que refletisse sobre a formação social portuguesa, a formação das classes sociais em Portugal, da burguesia contra a nobreza desde as invasões francesas e da Revolução Nacional Popular contra as invasões francesas, até passando pela uma revolução industrial não autónoma, portanto Portugal sempre muito dependente da Inglaterra, inclusive no arranque industrial, para a fundação da Fraternidade Operária, depois da Comuna de Paris, como um braço político e organizativo da Internacional dos Trabalhadores, até ao desenvolvimento do, enfim, do anarcossindicalismo, que é do mais importante em todo o mundo. Portugal, Espanha, França, Estados Unidos estão entre os países onde se vai mais longe. Para se ter uma ideia, é um número que nós gostamos sempre de lembrar. Havia 350 jornais operários na viragem do século XIX para o século XX, e um jornal como A Batalha, em 1919, chegou a ter 25 mil exemplares diários. Até ao Estado Novo, como, digamos, o último ato da Revolução Burguesa, baseado na proibição dos partidos e dos sindicatos para garantir a acumulação de capital e no trabalho forçado nas colónias, que originou revoltas muito importantes, até, evidentemente, ao 25 de Abril, a partir de um estudo daquilo que se chama a democracia participativa, mas daquilo que se chama a pré-figuração em ato. O que é que isto quer dizer? Quando em Portugal, um grupo de quase 3 milhões de pessoas que esteve envolvido em manifestações, comissões de trabalhadores, moradores, etc., imaginou outra forma de viver. Até depois à Europa connosco. Foi isto que nós tentámos fazer. Evidentemente é um livro para tentarmos fazer na forma de história pública, ou seja, também para não historiadores. Há um debate entre a historiografia sobre a formação social portuguesa, sobre o Estado-nação, etc., que fazemos, mas fazemos de uma forma que esperamos que seja também para não historiadores e que todos queiram ler, e temos tido já uma resposta muito positiva nesse sentido.
Sim, com efeito, é a história a partir de baixo, como costuma dizer, porque eu sei que havia também um projeto da sua parte de escrever a história popular de Portugal, e finalmente este livro entra perfeitamente nisso, na medida em que, bom, sem conhecermos o passado, é impossível de transformar o presente. Ora, e quando se fala do presente, isso é bastante importante, e depois aparece já no final do livro, é que estamos a festejar o 50º aniversário do 25 de Abril. Ora, tem noção que já lá vão 50 anos, no entanto, um certo número de lições não foram ainda tiradas, porque houve uma vitória aumentada, vocês focam isso, é bastante importante, a dualidade de poderes que havia entre 74 e 75. Um certo número de conquistas populares, digo bem, conquistas populares do povo, que o povo no dia 25 de Abril veio para a rua. Isto, podemos fazer o paralelo com a situação que se passa hoje, não, Raquel Varão? A defesa do Serviço Nacional de Saúde, o direito à educação, o direito à habitação. Quer dizer, parece que voltamos 50 anos atrás, onde o povo conseguiu arrancar o certo número de direitos, não?
Ela é uma história popular de Portugal, foi isso que nós fizemos, a People's History, une histoire populaire, não é? Em França também penso que se traduz assim.
E com efeito.
Mas em Portugal, a história popular soa a uma coisa um bocado nacional popular e não à história dos de baixo. Daí nós temos decidido pelo título Breve História de Portugal. Mas justamente o que nós quisemos fazer foi uma People's History. E, portanto, não há dúvida nenhuma que esse era o objetivo. Sobre a questão da dualidade de poderes e dos últimos 50 anos, eu gostava de dizer o seguinte: às vezes há esta ideia de que a história é uma locomotiva que anda sempre em frente, um comboio que anda sempre em frente. E não é assim. Ou seja, o processo histórico tem zigzags e tem recuos. Não é a história política social, não é a história cronológica e linear, não acompanha sempre. E isto significa que, por exemplo, a estagnação durante a ditadura do Estado Novo, daquilo que é o mundo do trabalho, contrasta com o avanço extraordinário da concentração de capital das grandes famílias que viviam à sombra do trabalho forçado dos mineiros moçambicanos a trabalhar na África do Sul, ou dos trabalhadores na metrópole, que não tinham quaisquer direitos sindicais e ainda eram sujeitos quando lutavam ou contestavam a tortura e a polícia política, contrasta com a aceleração do tempo histórico dos 19 meses da Revolução, que significou, para a grande maioria da população que vivia do trabalho, e por arrasto para a outra população, porque note-se que até os liberais portugueses chegaram ao poder em 1820 e o direito ao voto, que é um direito liberal, só foi conquistado em 1974 com a participação de uma revolução social. Portanto, os trabalhadores, quando entram em revolução, esta é uma tese essencial que nós afirmamos aqui no IVI, que já eu tinha, por exemplo, debatido na questão da história do povo na Europa, que escrevi, na Breve História da Europa, é que a classe trabalhadora contém em si uma dimensão universalista. Enquanto que a nobreza garantia para si privilégios, a burguesia garante para si privilégios, a classe trabalhadora, quando se põe em marcha, garante uma conquista, uma ampliação de direitos universais. E isso aconteceu de forma absolutamente extraordinária em 74, 75. Nunca tanta gente cediu tanto, e o grande marco dos 50 anos do 25 de Abril não é no quadro das comemorações oficiais, a partir do Estado, a celebração apenas, e essencial, evidentemente, da passagem de uma ditadura a uma democracia liberal, é muito mais do que isso, porque isso implica uma ruptura com a ideia de tempo histórico. Ou seja, não houve só uma passagem de uma ditadura a uma democracia liberal, houve uma ditadura, houve uma democracia participativa, em que, como eu disse, 3 milhões de pessoas envolveram-se diretamente nas decisões democráticas da sua vida, e foi assim que os médicos em comissões de gestão democrática abriram hospitais, abriram urgências em 74, 75, os professores abriram escolas e debateram os currículos. É uma extensão, os direitos sociais, que muitos deles hoje acabaram, foram conquistados nas fábricas, em gestão democrática que hoje é tida como caótica, mas evidentemente que é a ideologia dos vencedores, porque na verdade não tem nada de caótica, e tem justamente o contrário. Como é que tanta gente tão pobre, afastada da política, agarrou a vida nas próprias mãos? Depois disso, o que aconteceu é um período de relativo até grandes lutas sociais, que vão desde a campanha do hotel até à adesão à União Europeia, e há um retrocesso evidente que está plasmado em todos os índices sociais, que se acentua a partir dos anos 90. Ou seja, não há só 50 anos, era isto que eu queria, porque hoje em dia um dos grandes argumentos da extrema-direita, que eu sei que evidentemente não é o seu, mas um dos grandes argumentos do partido neofascista Chega em Portugal, é dizer que os últimos 50 anos são uma desgraça, logo o que estava bem era a ditadura do Estado Novo. Isso, na verdade, implica uma espécie de limpeza histórica, ou seja, esquecer o que é que são o 25 de Abril e as conquistas dos anos seguintes, e esquecer que aquilo que hoje é a degradação da vida dos portugueses está associado ao período, a partir da entrada na União Europeia, que se associa ao período neoliberal no mundo e na União Europeia, não está associado à Revolução do 25 de Abril. Na verdade, durante o Estado Novo, a esmagadora maioria da população era pobre, a esmagadora maioria da população nem acesso a esgotos tinha, não tinha acesso a médico.
A educação.
Nós tínhamos a maior mortalidade materna ou infantil da Europa. Mas, se me permite, eu passava agora ao Roberto La Santa, porque ele também queria acrescentar algo que eu acho que é bastante relevante. Com licença.
Roberto La Santa.
Olá, viva.
Muito boa tarde.
Olá a toda a gente lá em casa.
Muito obrigado por estar em direto connosco aqui em Paris. Então, se faz favor.
Olha, eu que agradeço, é um gosto estar convosco. E me juntando um pouco à conversa, bem, já perceberam que um olhar aqui do cientista social do outro lado do Atlântico, né? Então, estamos aqui a quatro mãos a escrever uma história de Portugal no mundo. E me parece que esses 50 anos são importantes. São importantes por várias razões. A questão da revolução e a afirmação da dualidade de poderes me parece realmente central para qualquer reivindicação do 25 de abril como processo, não só como um evento político, né? Mas como um processo histórico. Mas particularmente, há uma ideia, força, no livro que me parece importante destacar, que é basicamente a seguinte, se me permite, esses 50 anos são uma espécie de reinvenção do país. Então, nós estamos num ano que vai ter muitas efemérides em conjunto, né? Uma delas, inclusive, os anos do próprio Camões, né? Do poeta Luiz Camões, do poeta épico, do poema épico que funda uma nação. Mas nós queríamos deslocar um pouco a atenção, ou as atenções, dessas grandes durações, digamos, dos mitos fundacionais, por exemplo, de um país supostamente com 900 anos de história, né, com quase 1000 anos de história, portanto, para a centralidade do que são os últimos 200 anos, né, a história contemporânea, mas mais particularmente esses últimos 50 anos. E por uma razão que pode parecer banal para o ouvinte que nos ouve lá em casa, ou algo, digamos, até do senso comum, mas que não é chamada a colação tão a miúde. Que é basicamente o seguinte: se nós olharmos para o espectro político-partidário de Portugal, né? O Partido Socialista, o Partido da Social Democracia, enfim, todo o arco da governação parlamentar, esses partidos, na sua grande maioria, são fundados nos anos 60 e 70 do século 20. Então, o único que foge um pouco à regra e é fundado um pouco antes, mas mesmo assim, também no início do século 20, é o Partido Comunista, em 1921, que na verdade provém de uma refundação dos anos 40. Mas, de qualquer forma, nós não estamos a falar, por exemplo, de um país como a Inglaterra, que tem partidos como o conservador fundados entre 1700 e 1800. Não é? Nós estamos a falar de uma vida política nacional cuja centralidade é fundada com a Revolução de Abril. Ou seja, não só a sua Constituição, mas toda a sua ordem constitucional moderna. Então, nos parece que a história contemporânea realmente marca um momento decisivo que coloca questões fundamentais para todos os portugueses em Portugal e, obviamente, no mundo.
Com efeito. Até podíamos falar uma hora e um dia desses vamos mesmo ter que organizar isso, porque, bom, entretanto, os minutos passaram, porque há algo de importante que é o chamado 25 de novembro. No livro, a análise é feita uma contra-revolução a uma ruptura, enquanto se fala de normalização, de maneira que me interroga muito, que não é por acaso, que a Câmara Municipal de Lisboa e o Partido Iniciativa Liberal festejaram 25 de novembro, mas enfim. Muito obrigado, Roberto Della Santa, obrigado igualmente a Raquel Varela. Breve história de Portugal, a era contemporânea, 1807-2020, Raquel Varela e Roberto Della Santa, Bertrand Editora. Muito obrigado aos dois. Este livro pode ser bom. Em França chama-se o livro de Chevet, para pensar naquilo que podemos fazer, devemos fazer quando festejarmos os 50 anos do 25 de Abril. Bem-ajam e até proximamente, então.
Muito obrigada.
Estamos na reta final desta passagem de Évora, domingo dia 22 de dezembro, e antes de irmos às memórias do antigo embaixador da França em Portugal, trata-se de Patrick Gautrin, nada melhor que um intervalozinho musical, Estado Limite, Duarte.
Chama-se Estado Limite, e é o lugar onde estou. Não sei se parta, se fica, nunca ninguém cá ficou. Chama-se Estado. Porque já ninguém nunca ninguém cá ficou.
Estado Limite é um trabalho que está incluído no último disco, precisamente, de Duarte, 20 anos. Bom, não são 20 anos, são algumas décadas passadas, isto a propósito do livro Memoir Portuguese, Soldados, do antigo embaixador de Portugal, o embaixador da França, sim, que é em Portugal, mas passou por muitos sítios também, um livro publicado pelas Edições Temporis, com o prefácio de Yves Léonard. Patrick Gautrin, bon, qui s'aime chabelle un peu d'image, alors. Alors, monsieur Patrick Gautrin, en règle générale, les mémoires d'un ancien diplomate se focalisent, disons, sur l'ensemble de sa carrière, mais avec vous, c'est tout à fait différent. Est-ce que vous avez une relation avec le Portugal, en quelque sorte, disons, que le Portugal est devenu une seconde patrie, au fil du temps, pour vous?
Oui, alors effectivement, par rapport à mes collègues, la plupart, j'ai pas voulu rédiger un jour des mémoires d'ensemble qui m'auraient amené dans beaucoup de pays, y compris les États-Unis. J'ai préféré me brancher principalement sur deux, le Portugal et la Pologne. Alors que j'ai eu de la Pologne, qui est un autre pays très cher à mon cœur, d'une expérience uniquement diplomatique, par deux fois, le Portugal, comme vous l'avez dit, je l'ai connu tout petit, à l'âge de 12 ans, ce qui a été pour moi un coup de cœur, découvrant un pays assez extraordinaire dans l'Europe d'alors.
Oui, justement, alors, 1956,
oui,
le premier voyage au Portugal, vous passez la frontière et crac, boum, une panne de batterie.
Alors, on passe la frontière, en réalité, on se paye deux jours de tempête épouvantable dans le golfe de Gascogne, parce qu'on était sur un cargo mixte, où il y avait donc des passagers. On est donc arrivé un petit peu rompu, je vous le cache pas, à Lisbonne, et effectivement, en descendant, patatrac, les dockers français avaient laissé le contact, si bien que la voiture était à plat.
Voilà, bon, là, on pourrait continuer. Donc, au fil des années, vous êtes allé en vacances au Portugal.
Oui.
Revenons, par exemple, à l'année 1961. Situation tendue à l'époque, dans la mesure où le capitaine Galvan a pris d'assaut le paquebot Sainte-Marie. Mais il y a une rencontre très importante à Ville-de-Conde. Alors, Clarine, votre premier amour.
Oui, bah, écoutez, j'en suis très fier. Mon premier amour, ô combien pudique, parce que dans le Portugal de l'époque, les jeunes filles étaient assez réservées. Mais là, c'était une francophone parfaite, dont j'étais assez amoureux, c'est vrai, et dont j'ai retrouvé la sœur, par le hasard le plus invraisemblable, en Pologne, comme diplomate très connue, Margarida Figredo, en 2002. Donc la famille était très sympathique, et c'était une famille, je dirais, à gauche. Dans le Portugal de Salazar, c'était quelque chose d'assez extraordinaire et intéressant, et toute la famille était particulièrement hostile au régime, tout en pouvant, si vous voulez, avoir des activités professionnelles et universitaires normales.
Alors justement, c'est pas pour rien que Marguerite, c'est elle qui a, disons, pressé, dans le bon sens du terme, Georges Sampaio a accepté pour lettre d'accréditation au Portugal. Bon, on va y arriver.
Alors, c'est vrai.
Alors, important aussi, c'est pas pour rien que vous avez choisi vos voyages de noces au Portugal. C'était 1972. Justement,
oui.
1972, c'était plus Salazar, mais c'était Caetano. Mais c'est très important, ça, parce que, donc, vous avez vécu, vous avez vu le Portugal. Dans l'ancien temps, je peux utiliser oui. l'expression, la misère, la tristesse du peuple. Tristesse, c'est pas tristesse parce que le peuple essaie de vivre. Donc, vous avez vu le Portugal de l'intérieur et vous dites, bon, mais dans quel siècle on est?
Oui, ben, si vous voulez, moi qui étais plutôt politiquement à droite, quand je suis arrivé au Portugal, j'ai trouvé que le régime communiste polonais, puisque j'étais à cette époque-là en poste en Pologne, avait des mérites. C'est-à-dire que le régime socialiste, comme on disait, avait le mérite de nourrir sa population, mieux que ne l'était la population portugaise de base, et de le soigner beaucoup mieux. Et je le raconte dans le bouquin, j'ai eu un choc, parce que j'adore le football et j'en parle énormément dans le livre, ce qui est, au Portugal n'était pas un problème. Je suis allé voir le football club de Porto jouer, j'étais dans les tribunes debout, derrière le but, avec ma femme, populaire, et là, on a vraiment vu un Portugal qui avait faim, qui était mal habillé, qui était évidemment enthousiasmé par le match, mais qui était vraiment une foule beaucoup moins reluisante, si je peux employer cette expression, que la foule polonaise que je voyais dans les stades en Pologne. J'en ai donc conclu, très provisoirement, je vous rassure, que le système socialiste, à tout prendre, était moins mauvais, tout en ayant des défauts énormes sur le plan des libertés, était moins mauvais que le système de M. Caetano, qui n'avait pas réussi à réformer le pays.
Bon, alors, entre-temps, bon, vous êtes parti à Washington, vous étiez à Barcelone, vous parliez espagnol, mais pas catalan. Bon, enfin, une phase très importante, c'était la demande du Portugal d'adhésion à ce qu'on appelait à l'époque la Communauté économique européenne. 1974, il y a deux années importantes, vous êtes au cabinet de M. Rebombard, M. Rebombard remet finalement l'adhésion du Portugal à ce que vous appelez un ticket Portugal-Espagne. Alors, en 1977, Mario Suarez est à Paris. Il se rencontre avec Raymond Barre, qui reçoit Mario Suarez d'une façon aimable, mais enfin, il n'était pas très convaincu.
Écoutez, vous avez très bien lu le bouquin. Oui. J'ai dans mon salon la photo de M. Barre et de M. Suarez, avec moi à côté, sortant du bureau où ils viennent de parler. Et comme on dit vulgairement en français, Suarez fait la gueule. Il n'a manifestement pas obtenu ce qu'il voulait, mais pour être très honnête, c'était M. Giscard d'Estaing, paix à ses cendres, qui voulait absolument pas que l'Espagne et le Portugal rentrent avant la Grèce. Donc les Portugais ont été très déçus, et M. Soares, avec qui j'ai entretenu après, quand j'étais ambassadeur, des relations extrêmement fréquentes et amicales, m'a dédicacé la photo de ce mauvais souvenir. Il a eu la gentillesse de dédicacer la photo.
2004-2005, ça y est, Lisbonne retrouvait, vous savez, vous êtes encore en poste en Pologne, et finalement, oui, et les relations, ça se passait pas bien du tout entre la France et la Pologne. Bon, à l'époque, le président de la République s'appelait Jacques Chirac. Bon, vous n'étiez pas trop chiraquien, hein. Bon, disons les choses comme elles sont. Mais ça n'empêche que c'est pas pour rien qu'il y a un chapitre, vous dites, Lisbonne retrouvée. Là où on dirait que c'est pouf, il y a quelque chose, je vais souffler à nouveau, je vais être à nouveau, entre guillemets, chez moi.
Écoutez, d'abord j'avais rêvé, j'avais jamais pensé que je serais ambassadeur à Lisbonne, et quand j'avais visité en 72 le palais de Santos, je m'étais dit, ben, le type qui est, ou la fille, aujourd'hui c'est une dame, qui est ambassadeur là, il a bien de la chance. C'est un endroit absolument génial, et je vous le dis franchement, je vais être très franc, de retrouver les Portugais, ça a été pour moi une joie immense, non pas que j'étais malheureux avec les Polonais malgré les désaccords entre nos gouvernement, j'aimais beaucoup la population là-bas de ce pays, mais les Portugais étaient vraiment des gens d'un contact absolument fantastique. Il n'y a qu'une chose qui m'a déplu quand je suis revenu au Portugal, je ne le dis pas dans le livre d'ailleurs, vous m'y faites penser, ouais. C'est la route. La route, je trouvais que les Portugais conduisaient d'une façon assez épouvantable, alors que les Français sont pas beaucoup mieux, les Italiens, ma femme est à moitié italienne, c'est terrible. Donc, dans l'ensemble, les automobilistes sont terribles, mais les Portugais m'étaient apparus assez effrayants, avec néanmoins une innovation formidable, qui était les péages électroniques, qui n'existaient pas en France.
C'était une invention portugaise.
Voilà, et j'avais été enthousiasmé par ces presque 4 ans au Portugal.
Oui, ça n'empêche, quand vous êtes arrivé à l'ambassade du Portugal, au Palácio de Santos, comme on dit en portugais, bon, il était dans un piètre état. Bon, bref, enfin, laissons ça de côté. On vous avait mis dans un bureau vraiment très sombre et vous vouliez voir l'otage. Monsieur Patrick Gautrin, je rappelle votre livre, Mémoire portugaise, Soldat, oui. Édition Temporis. Vous avez connu le Portugal avant la révolution des œillets, après la révolution des œillets, et ça, je pense que c'est une expérience importante pour vous et de laquelle vous avez tiré quelques enseignements, je suppose.
Bah écoutez, j'ai tiré les enseignements que les régimes conservateurs, autoritaires et assez fermés, comme était le régime de Salazar, indépendamment des colonies, ça n'est pas une très bonne solution pour un pays, même si la monnaie est forte. Donc, le Portugal, que j'ai adoré en tant que pays et par ses habitants à l'époque, franchement, ne donnait pas envie de partager cette expérience. Le Portugal d'après, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai bien connu le Premier ministre Socrates qui a eu quelques problèmes ensuite, mais qui était un partenaire extrêmement amical dans le travail. Et j'ai eu la chance aussi de nouer une relation d'amitié avec, comme vous l'avez dit, M. Sampaio, et avec Monsieur Costa. Et l'amour du football, je pourrais presque terminer là-dessus, Costa et Sampaio, ils allaient tout le temps au Benfica et ils étaient dans les mêmes sièges. Et moi, j'ai réalisé tout de suite, quand on a nommé Monsieur Costa, je me suis dit, vraiment, ils s'entendent comme larrons en foire, essentiellement grâce au football.
Oui, mais ça n'empêche que Jorge Sampaio, il était du Sporting, non?
Non, je confonds avec Rebelo de Sousa, pardon.
D'accord.
Voilà, vous me rendez malade avec les clubs portugais. Bien sûr, vous avez raison, monsieur Sampaio était à fond pour le Sporting, et je le dis dans le livre, le président polonais Kraśniewski, qui revenait du Portugal, m'avait dit, sûr, quand je suis parti de Varsovie, ne faites pas de gaffe, monsieur Sampaio est pour le Sporting. Et moi, personnellement, j'étais neutre, j'étais ni pour le Sporting, ni pour le Benfica, j'étais plutôt pour le Belenenses, parce que c'était le troisième club, voilà. Mais les deux, je termine, rassurez-vous, les deux qui étaient larrons en foire, c'était effectivement Rebelo de Sousa avec Costa. Et ils allaient au match, ils étaient au match invités ensemble au stade de la Luz. En tout cas, merci de m'avoir rattrapé sur le football. Là, c'était une erreur impardonnable.
Non, j'ai bien lu ça. Hein. Simplement, j'ai omis le fait que c'était le Premier ministre, je crois, polonais, qui vous a dit, attention.
Le président Kaczynski, oui, qui adorait le football aussi. Vous savez, le football, ça aide pour un diplomate, parce que ça permet de nouer des relations amicales avec des gens importants.
Monsieur Patrick Gautrin, merci. Je rappelle,
merci à vous.
Mémoire portugaise Soldade, un livre avec une préface, l'historien Yves Léonard, aux éditions Temporis. Merci, monsieur Gautrin.
Je vous en prie. Merci. Bonne fin de week-end.
É verdade, bom fim de semana, eu quero dizer. Na primeira hora falámos precisamente com uma responsável da Solidariedade Internacional a propósito da desolação que provocou o ciclone Chido em Moçambique, e antes de terminar a emissão, precisamente vamos ouvir um autor, compositor e intérprete moçambicano, Carlos Stuart Sukuma.
Shilaba male, shilaba male, como un cántalo. A puta cueste la ni cueste mula.
Compositor, interprete moçambicano, Stuart Sukuma, e o título é Malé. Malé, obrigado pela ajuda do Manuel Alexandre. Estamos a chegar ao final da emissão, mas antes disso, um anúncio. Lembramos que Capa Mageron está a organizar o Gala de Remise des Prix, como quem diz, de candidaturas sobre 6 temáticas que terão direito também um prémio monetário, diz respeito ao prémio para o melhor estudante do liceu, melhor estudante universitário, melhor projeto associativo, o melhor jovem empresário e, igualmente, a iniciativa cidadã, sem esquecer a relação artística musical. As candidaturas são aceitas até o dia 31 de dezembro e devem ser enviadas, ou pelo menos encontrar o formulário, no site capmageron, tudo pegado em minúsculas, .com, até o dia 31 de dezembro. A entrega destes prémios terá lugar, provavelmente em janeiro, não tinha data ainda. Bom, obrigado a todos, obrigado a Manuel Alexandre por me ter aturado ainda mais um ano. É verdade que as festas estão aí, o Natal é já quarta-feira que vem, depois virá o Ano Novo, de maneira que para todos vós, os que fiquem aqui passem umas festas excelentes, para aqueles que vão do Portugal tenham o pé ligeirinho, como se costuma dizer, a nível do acelerador, se forem de carro, e já agora, para aqueles que vão de avião, cuidado, porque hoje começou uma greve nos aeroportos em Portugal que vai durar até o dia 1, tomem as vossas precauções. Obrigado a todos e dado que, bom, Natal, como diz o outro, está à porta, nada melhor do que um brilhozinho. Um brilhozinho, não sei se é estrela polar, não faço a mínima ideia, mas enfim, o tema, o brilho do Natal com Ângela Silva. Bem-ajam e dou-vos encontro aqui do ano, espero eu, 2025.
Passagem de nível.